Le plus grand port spatial d'Asie de l'Ouest sera mis en service en février 2025. La frappe israélienne contre une école de Gaza est un horrible exemple de souffrance civile, rappelle l'ONU, et le Hamas ne rendra pas ses armes ni ne signera un accord qui l'exige, rappelle Yahya Sinwar. C'était les principaux titres sur l'actualité, en voici les détails. Lors d'une visite jeudi dans la ville de Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan et Baloutchestan, située au sud-est, le ministre iranien des Communications et des Technologies de l'Information a déclaré que la République islamique d'Iran allait inaugurer le plus grand port spatial de la région de l'Asie de l'Ouest dans la ville portuaire méridionale de Chabahar au début de l'année prochaine. Le processus de construction de la première phase du port spatial est achevé grâce à un travail de 24 heures sur 24, s'est-il félicité. Il a précisé que le processus avait jusqu'à présent enregistré un progrès physique de 56%. Zarepour a affirmé que la base entrerait en service lors des cérémonies de la décade de l'aube en février 2025, marquant le début des festivités de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Le centre spatial devrait accueillir son premier lancement d'ici mars prochain, a ajouté Zarepour. Il a déclaré que la construction de cette installation avait commencé sous le gouvernement du feu président Ebrahim Raisi, qui, en compagnie d'un certain nombre de responsables, est tombé en martyr dans un accident d'hélicoptère au nord-ouest du pays le dimanche 19 mai. L'installation spatiale, a-t-il conclu, est également un hommage rendu au défunt président. Malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux, ces dernières années, l'Iran a franchi un pas de géant dans son programme spatial civil. La République islamique d'Iran envisage d'envoyer des satellites plus lourds dans l'espace au cours des 5 prochaines années, a dit le ministre, se félicitant que le pays ait également réussi à placer ses satellites sur une orbite terrestre basse située à une distance de 450 à 2 000 km de la Terre. Site du journal. Le secrétaire général des Nations Unies a condamné une frappe israélienne meurtrière contre une école de l'ONU abritant les réfugiés palestiniens à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné le bombardement meurtrier par Israël d'une école transformée en refuge dans la bande de Gaza assiégée, affirmant que ce carnage est un exemple horrible de souffrance civile dans le territoire palestinien déchiré par la guerre. Au moins 40 personnes, dont un certain nombre de femmes et d'enfants, ont été tuées jeudi lors d'une attaque israélienne contre une école gérée par l'ONU où s'abritaient des réfugiés du camp de Nouseirat. Le raid aérien a également fait des dizaines de blessés et le bilan des victimes risque de s'alourdir en raison du grand nombre de blessés qui se trouvent dans un état critique, a annoncé le directeur du bureau de presse du gouvernement de Gaza. C'est juste un autre exemple horrible du prix que payent les hommes, les femmes et les enfants palestiniens qui tentent juste de survivre, a déclaré le porte-parole de Guterres, Stéphane Dujarric, lors d'une conférence de presse plus tard dans la journée. Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré jeudi que la résistance n'accepterait pas un accord de paix à moins qu'Israël ne s'engage à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Sinwar a affirmé auprès des délégations arabes de négociation à Doha que le Hamas ne rendrait pas ses armes ni signerait un accord qu'il exige, selon le journal américain The Wall Street Journal, citant la lettre envoyée par le chef du Hamas à Gaza que les médiateurs ont reçue jeudi. Le Wall Street Journal a confirmé dans un article que Sinwar avait envoyé un message aux médiateurs égyptiens et qataris selon lequel il n'accepterait pas un accord de paix à moins qu'Israël ne s'engage à un cessez-le-feu permanent. Selon une autre dépêche depuis la région, le secrétaire général adjoint du mouvement du djihad islamique de la Palestine, Mohamed Al-Hindi, a souligné jeudi que tous les groupes de résistance insistaient sur la nécessité du retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Toutes les parties s'accordent sur le retrait complet d'Israël de la bande de Gaza et dans tout éventuel accord, il devrait être clairement souligné qu'Israël ne devrait pas recommencer la guerre après la cessation des hostilités, a-t-il précisé au micro de la chaîne d'information qatari Al Jazeera. et de poursuivre. Israël sera contraint de se retirer complètement de la bande de Gaza car il sera épuisé. Et ce qui se passe à Netzarim en est la preuve. Netzarim est l'axe qui relie l'ouest de Gaza à l'est de l'enclave palestinienne où les combattants de la résistance ont infligé des coups durs aux militaires israéliens. Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré que deux opérations conjointes avaient été menées en coopération avec la résistance islamique irakienne contre le régime israélien dans le port de Haïfa. Lors de son discours du jeudi 6 juin, le général de brigade Yahya Sari a annoncé qu'au cours de la première opération, deux navires transportant des équipements militaires avaient été attaqués dans le port de Haïfa. Lors de la seconde, a-t-il indiqué, un navire ayant violé l'interdiction d'accès au port de Haïfa a été ciblé. Il a précisé que ces deux opérations avaient été exécutées en utilisant une flotte de drones qui ont touché leur cible avec une précision inégalée, ajoutant qu'une série d'opérations conjointes d'une intensité jamais vue auparavant serait menée contre l'ennemi israélien au cours de la période à venir. Le général Sari a également annoncé que l'opération conjointe au port de Haïfa avait été lancée en représailles aux actes criminels de l'ennemi israélien à Rafah. Destination France, où plus de 230 artistes, comédiens et militants culturels français ont publié une lettre ouverte commune adressée au président français Emmanuel Macron, l'exhortant à reconnaître la Palestine en tant qu'État, à l'instar de l'Espagne, de la Norvège et de l'Irlande. Ils ont rappelé que plus de 35 000 civils avaient été massacrés à Gaza lors des frappes israéliennes et que deux camps de réfugiés avaient été bombardés à Rafah. Nous sommes témoins d'un génocide en temps réel, filmé, documenté, se déroulant sur nos écrans quotidiennement et devant lequel nous sommes nombreux à nous sentir impuissants, ont-ils déploré avant d'ajouter: Le temps n'est plus au débat, il est à l'action. Combien de morts faudra-t-il pour que la France prenne une position claire et humaniste? Combien de crimes contre l'humanité ont interrogé les signataires? L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont pris le chemin de la dignité humaine en reconnaissant officiellement l'État palestinien, rejoignant ainsi les 143 pays qui reconnaissent officiellement l'existence d'un État palestinien. Aujourd'hui, nous faisons appel au président de la République pour lui demander cette reconnaissance. Ne soyons pas à rebours de l'histoire, ne soyons pas dans le camp de la honte, ont-ils estimé dans leurs lettres. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Les dessous de l'arrestation d'un ressortissant iranien en France. La police française a récemment arrêté un journaliste iranien sans aucune justification ou explication sur les raisons de son arrestation. Il paraît toutefois que cette interpellation serait liée aux activités de ce militant des médias sur les réseaux sociaux en soutien à la population de Gaza et pour dénoncer les atrocités commises par l'entité israélienne. Bachir Biazar est un journaliste iranien, militant anti-guerre et partisan de la cause palestinienne, qui a été arrêté par la police française alors qu'il se trouvait à Paris. La police française n'a fourni d'explication sur les raisons de l'interpellation du ressortissant iranien. Bien que la raison de cette arrestation n'ait pas encore été officiellement annoncée, il semble que cette arrestation ait eu lieu en raison de ses activités antisionistes sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, ce militant des médias a participé à une vaste campagne sur l'espace virtuel pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler lors d'une réunion aux Nations Unies sur les sanctions contre l'Iran, les crimes israéliens et les dysfonctionnements de l'ONU. Ce qui était intéressant, c'est que plus on parlait contre Israël, plus on était acclamé par le public. Les sionistes n'ont jamais été aussi isolés, détestés et humiliés, avait-il écrit dans l'un de ses derniers messages. Dans ses commentaires, le militant pro-palestinien avait également dénoncé l'influence des lobbies sionistes sur les milieux politiques et médiatiques des pays européens qui ont délibérément fermé les yeux sur les réalités de la guerre israélienne à Gaza. Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi à l'arrestation du ressortissant en France et fait part de sa détermination à suivre l'affaire. La répression des voix pro-palestiniennes s'inscrit dans un contexte plus global en France de criminalisation systématique du soutien à la Palestine. En effet, ces dernières semaines, les convocations par la police pour apologie du terrorisme pleuvent sur les personnalités et les citoyens français, ainsi que les ressortissants étrangers exprimant leur solidarité avec la Palestine. Alors que les mouvements de soutien à la Palestine prennent de l'ampleur, de la force et résonnent plus largement, ils sont aussi violemment réprimés. Malgré une augmentation du nombre de personnes se rassemblant en France pour exprimer leur soutien à la Palestine et condamner les attaques israéliennes à Gaza, se solidariser publiquement pour la Palestine reste un défi. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, s'est certes prononcé contre l'interdiction systématique des rassemblements pro-palestiniens décidée par le ministre français de l'Intérieur, mais il n'en reste pas moins que les intimidations et les interpellations à l'encontre de ceux qui dénoncent le génocide à Gaza se poursuivent en France. Ce mouvement de protestation contre la guerre génocidaire israélienne à Gaza révèle non seulement des frustrations spécifiques, mais aussi un malaise plus large au sein de la jeunesse française qui se sent déconnectée et souvent trahie par les orientations prises par ses dirigeants et perçoit ses actions et opinions comme étant régulièrement ignorées et réprimées par la classe politique dirigeante.